Alors nous sommes dans le chapitre 3, ce qui est le dernier chapitre de cette deuxième partie. Je pense qu'on va le terminer aujourd'hui. Et donc la tentative de développer une argumentation en faveur de la crédibilité et de la vérité du christianisme, de la tradition chrétienne. Donc la question, pourquoi adhérer? Voilà, c'est ça la question. Alors évidemment, je dirais que je ferai de plus en plus allusion maintenant, entre guillemets, et ça sera aussi pour la troisième partie, à des choses déjà dites. Donc on arrive à un moment qui est peut-être un peu plus difficile, je dirais, pour vous, parce que il s'agit de commencer à entrer un peu dans quelque chose de synthétique, de voir un peu l'unité du parcours que je viens de vous proposer, que je vous propose. On n'est pas au bout tout à fait. Alors, il y a un premier argument, d'une certaine manière c'est peut-être l'unique argument de crédibilité. Donc il commence à la page 32, l'expérience de sainteté, authenticité et justesse normative comme argument et qui se trouve résumé un peu plus loin à la page 35. Voilà, donc je vais un tout petit peu revenir à ce résumé, donc la conclusion. Parce que, d'une certaine manière, c'est l'unique argument auquel on va toujours revenir, même si on le déploie après par un deuxième et un troisième et même après les vacances, un quatrième argument de crédibilité. La sainteté comme argument principal en faveur de l'authenticité et de la justesse de la foi chrétienne, donc je pense que vous avez bien intégré ces distinctions, authenticité, rapport à soi, et je dirais, crédibilité par rapport à l'autre, justesse, c'est plutôt le versant social de la vérité. Alors la sainteté comme argument principal en faveur de l'authenticité et de la justice de la foi chrétienne est tirée du cœur même de sa tradition, donc l'argument de sainteté, c'est le titre principal, le plus ancien finalement, le titre messianique qu'on donne à Jésus, « Tu es le Saint de Dieu », et que l'apôtre Pierre reprend dans les Actes des Apôtres, dans le célèbre discours de la Pentecôte, l'argument en faveur de la résurrection, « Tu ne laisseras pas connaître ton saint la corruption », vous rappelez. Donc ça c'est le titre, et chez Marc on trouve aussi ce titre, le premier qui est guéri, et tu es le Saint de Dieu, et Jésus le fait taire. Donc l'argument de sainteté est vraiment tiré du cœur même de la tradition chrétienne, mais suppose un décentrement de cette tradition par rapport à elle-même. C'est-à-dire parce que nous connaissons le Christ, nous pouvons nous intéresser avec lui à tout homme, à tout être humain, à quiconque. Et donc de découvrir cette sainteté à l'œuvre en tout être humain. Donc c'est, je dirais, la tradition chrétienne est d'abord une tradition d'admiration, voilà, de ce que Dieu fait. Tout homme, quiconque peut accéder à la sainteté, quiconque est en effet le sujet principal de l'intérêt de Jésus. Donc ce n'est pas parce que nous serions plus saints que d'autres, mais en nous référant au Christ comme ses disciples, voilà, nous pouvons jeter un même type de regard que le sien sur le réel. Donc c'est là, si vous voulez, l'argument de sainteté. Cela implique que la totalité de l'argument de crédibilité est impliquée dans ce premier temps, à savoir dans l'expérience humaine et spirituelle d'une foi engendrée par quelqu'un d'autre. Vous voyez, on est sur le plan relationnel. La foi est toujours engendrée par quelqu'un d'autre, la plus élémentaire. Tout homme est une histoire sainte. Voilà. Cela veut dire, en toute histoire humaine, un événement peut se produire qui ouvre à quelqu'un l'accès à la foi la plus élémentaire, pas nécessairement la foi christique, la foi la plus élémentaire de quiconque. Autrement dit, l'être humain n'est jamais naturellement croyant. La foi, même la plus élémentaire, est toujours un événement où se produit la communication du courage d'être, vous rappelez de ce vocabulaire que j'ai utilisé, de Tillich, grâce à la sainte santé et la sainteté de quelqu'un. Donc je suis toujours, comme croyant, même au sens le plus humain, le plus élémentaire du terme, je fais confiance à la vie. Je suis toujours tributaire d'autres qui m'ont montré que c'est possible. Voilà. Donc la santé, la sainteté des autres. Donc grâce à la sainteté, et il s'agit alors d'un courage d'être ouvert à un accomplissement. Au fond, cet accomplissement sommeille en tout être humain. Irreprésentable, mais il sommeille. Voyez ce que j'ai développé à propos de la question de la mort et du définitif. Voilà l'argument de sainteté. Alors, à partir de cela, on est entré la dernière fois déjà dans un deuxième argument, parce que, au fond, notre propre identité humaine, et a fortiori notre identité chrétienne, ne peut s'articuler face à des récits d'identification qui existent déjà dans nos cultures. Donc ça, c'est d'une certaine manière une donnée philosophique très très fondamentale. L'être humain est un être culturel qui vit déjà avec, je dirais, des patterns, comme on dit parfois en anglais, hein, des modèles, des récits d'identification. Alors aujourd'hui, beaucoup le cinéma, la littérature, etc. Et j'avais même dit la dernière fois, si on veut tuer une culture, il faut détruire ses bibliothèques. Voilà. Parce qu'on enlève à ce moment-là aux êtres humains la possibilité de s'identifier, de se donner une identité. Et donc, le récit biblique, dont il s'agit maintenant dans le deuxième argument, la crédibilité du récit biblique, l'argument narratif et historique, a ces deux versants qui penchent l'un vers l'authenticité et la justesse, et posent la question, finalement, cet argument, quel type d'humanité nous est véhiculé par la Bible ? Et ça, c'est une question, si vous voulez, que tout le monde qui lit peut se poser. Donc, on peut lire la Bible sans être chrétien, sans être croyant au sens juif ou chrétien du terme. Ce que font beaucoup, la Bible est aujourd'hui un classique de nos cultures humaines. Un classique, donc une notion intéressante. Il y a quelques grands classiques des récits d'identification. Donc, quel type d'humanité est véhiculé. Vous avez ça à la page 36. Voyez, la rationalité narrative et pratique, l'argument prophétique, donc au cœur de la Bible, il y a un prophétisme, une annonce d'un accomplissement, l'argument du signe et de la résurrection, les trois arguments classiques, répondent en réalité à la question quel type d'homme nous est proposé dans le récit biblique. Ah, c'est une multiplicité de types d'hommes, bien sûr, parce que bon, c'est une bibliothèque, la Bible. Mais en dernière instance, si ça a été relié, et on va y revenir dans la dernière partie du cours, après Noël, le canon des Écritures, si c'est un seul livre, la Bible, il y a ultimement un type d'homme dont nous parle la Bible. Une manière d'être authentique et de vivre d'une manière juste. Voilà, la justesse. Quel type d'homme? Voilà. un type d'homme en attente de son accomplissement par-delà la mort qui rencontre sur son chemin celui qui lui ouvre, vous voyez les situations d'ouverture dont on a parlé, l'espace de ce désir. C'est un livre du désir, le désir d'accomplissement. Les Rig Veda nous proposent autre chose. Les tragédies grecques nous proposent autre chose. Voilà, il y a une pluralité de récits, de types d'hommes. Voilà, ça c'est le type d'homme dont nous avons déjà rencontré précisément dans le premier argument, argument de sainteté, argument d'authenticité et de justesse. Est-ce que je me reconnais, est-ce que nous nous reconnaissons en ce type d'homme? Voyez, ça c'est donc l'argument qui va maintenant introduire une première lecture de la Bible. Et ensuite, c'est pas encore la question de la vérité. Finalement, deuxième versant de cet argument, que j'appellerai après argument christologique, est-ce que ce type d'homme est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors là, on passe à un seuil. Mais d'abord, je peux considérer ce type d'homme comme, ou de femme, évidemment, type d'homme, de femme, comme un type parmi d'autres, et d'essayer de comprendre et de voir si ça m'intéresse. Alors, c'est la première lecture du texte biblique, et d'une certaine manière, le récit parabolique dit au fond l'ensemble. La Bible est un récit parabolique, globalement, vu sous cet angle-là. Un récit fictif, pourrait-on dire. Je peux ensuite m'interroger sur sa réalité vraie. Mais d'abord, il projette un type d'homme. Donc, ce qu'on appelle aussi parfois la lecture narrative d'une Bible reçue comme objet culturel, je viens de dire, comme classique. Et donc la Bible prit comme un grand récit entre l'alpha et l'oméga, entre la Genèse et l'Apocalypse. C'est une magnifique construction généalogique, c'est-à-dire il y a une sorte d'impulsion qui est donnée par le début et qui va vers l'Apocalypse, vers l'accomplissement, le désir d'accomplissement. Voilà. Alors, cette lecture s'intéresse surtout, c'est un peu fort j'ai l'impression, non? Ça retentit, ça va. S'intéresse surtout évidemment au lecteur. Le texte nous donne des moyens de faire entrer le lecteur dans le monde de la Bible. Voilà, ça c'est le terme de Paul Ricoeur et d'autres. Donc la Bible, un monde entre la Genèse et l'Apocalypse, et lire, c'est de s'identifier à telle ou telle figure et y entrer dans ce monde. Voilà. La question de la crédibilité du récit biblique se pose alors d'une manière double. Premièrement, le monde proposé par le récit biblique est-il habitable? Est-ce que j'y peux respirer dans ce monde? Effectivement. Si je peux y respirer, c'est déjà pas mal, mais ça ne veut pas dire que ce monde est vrai. Et première question. Donc le royaume, c'est au fond une autre manière de dire le royaume. Voilà. Et surtout, ce récit nous permet-il de bâtir un monde habitable aujourd'hui? Donc pour ça, il faut en sortir, et avec ce récit, bâtir un monde habitable. Voyez, ça c'est la structure de l'argument narratif. Alors, je redis toujours, c'est pas encore la question de la vérité, parce qu'évidemment, vous avez beaucoup de récits ou de textes dans notre monde, sur notre petit globe, qui ont tous la même prétention. Le Coran a aussi cette prétention. Voilà. Un monde, le Coran est un monde, et il prétend aussi, d'une certaine manière, de rendre notre monde habitable d'une certaine manière. Alors évidemment, il a tout un autre rapport au monde. On pourrait dire la même chose du Talmud, voyez. Mais pour le moment, il s'agit d'entrer et de savoir. Est-ce que pour nous, ce monde est habitable? Est-ce qu'il rend le monde habitable? Alors, pour donner un peu une explication, et pour expliquer ce monde, je prends le chapitre 4 de Marc, et vous allez voir pourquoi. Parce que la spécificité, si vous voulez, la spécificité du monde biblique, ce qu'on a très vite compris chez les pères de l'Église, chez Origène en premier, sans doute, mais déjà chez Saint Irénée, contre les hérésies, c'est à la fois un macrocosme et un microcosme. Et le microcosme, c'est un peu comme une goutte d'eau qui reflète le macrocosme. Ça veut dire dans les plus petits éléments du texte, vous trouvez d'une certaine manière la totalité. Donc ça communique. Et ça, c'est l'énigme, si je puis dire, de la composition de la Bible. Alors ça émerge notamment, évidemment, dans les paraboles du Nouveau Testament, avec grande force. Et vous avez dans le chapitre la parabole de la plus petite semence, vous voyez, qui devient l'arbre où les oiseaux du ciel nichent. Donc vous avez là magnifiquement cette sorte de communication entre la plus petite semence et la totalité du réel. Alors la parabole du semeur. Il faut savoir de chez Marc, il y a donc une théorie, il réfléchit à cette question, le verset 33 vous est dit, suivant, « Toutes les paroles de Jésus sont des paraboles. » C'est prodigieux, c'est-à-dire toutes les paroles de Jésus sont dites d'être des paraboles. Et en 13, toutes les paraboles trouvent leur clé dans une parabole, celle du semeur. Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous allez comprendre toutes les autres? Donc vous avez ça, cette structure en abîme ici, voyez, où tout est réduit, entre guillemets, concentré dans une seule parabole. Donc le monde compris comme parabole, c'est le royaume. On pourrait dire en spiritualité ignatienne, le monde comme parabole pour nous aider à chercher Dieu en toutes choses. Voilà, Dieu en toutes choses. Alors, prenons donc la parabole du semeur, qui est d'abord une parabole relationnelle. Donc c'est ça le point le plus important. Au fond, il y a au début un embrayeur, ce que les linguistes appellent un embrayeur de communication. Écoutez, voyez, vous décrochez le téléphone. Écoutez, voilà. Et à la fin du petit récit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc une relation. Jésus, donc c'est lui le locuteur qui se trouve sur le lac, dans un bateau, la foule par terre, parce que la foule risque de l'écraser, on ne peut pas parler dans une foule, il faut prendre une certaine distance, voilà. Il est donc sur la barque et il parle à la foule. Écoutez, et pour parler, il parle d'un autre. Tout en parlant de lui-même, il parle d'un autre. Voyez, là vous avez la transposition. Il projette ses auditeurs, comme fait toute poésie, sur une autre scène. On est projeté sur le bord d'un champ, et au bord d'un champ, voilà, il y a un semeur, et on observe le semeur semer. Un semeur est sorti pour semer, ce qui est d'ailleurs une curieuse tautologie, je n'ai jamais vu un semeur qui ne sème pas, voyez, voilà, hein, qui sème. Et donc, il sème, donc on observe ça, et est-ce qu'il s'est bien semé? Et parce qu'il y a des choses qui tombent sur des pierres à côté, etc. Et finalement, en fin de compte, c'est ça qu'il nous raconte, ça donne une fécondité surabondante, voilà, 30 pour 1, 80 pour 1, je ne me rappelle plus des chiffres, peu importe, 100 pour 1, ben c'est absolument extraordinaire, voilà, fécondité. Alors, Jésus parle d'un autre tout en parlant de lui-même. Il fait ça d'ailleurs souvent. Il parle de lui en troisième personne, le fils de l'homme, ou le maître de maison, ou l'époux, vous voyez. C'est une manière très discrète de parler de soi-même. Donc, il les transpose sur un autre plan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en scène la confiance du semeur, parce que bon, peu importe, il faut semer, mais ça portera du fruit. Et ainsi, il met en scène sa propre confiance absolue, sa propre parole sera suivie des faits, de l'écoute. Voilà. Ça, c'est remarquable. C'est ça qu'il met en scène, en parlant d'un autre. Il s'expose, il se livre dans cette parabole à l'écoute d'autrui. Et voyez, la forme de la parole, vous êtes maintenant un peu habitué à ma manière d'insister sur la forme de communication, la forme du kérigme, une doctrine ou, voilà, une communication. La forme de la parabole, donc la métaphore, la transposition sur une autre scène, laisse précisément la liberté aux auditeurs, aux lecteurs. Et voyez, qui a des oreilles pour entendre, qui l'entende. Et certains restent, et d'autres partent. Et à ceux qu'ils restent, Jésus leur explique qu'ils auraient pu partir, mais ils sont restés. Voyez, c'est simple. Parfois, on dit l'explication de la parabole. Mais quand vous regardez, je dirais, le deuxième versant de la parabole, l'explication entre guillemets, voyez, ce n'est plus la même perspective. On change de perspective. La perspective de la parabole, c'est vraiment la confiance du semeur. Et l'explication, c'est le récepteur. On est dans une communication. Jésus leur explique, ils sont restés, mais ils auraient pu partir. C'est miraculeux qu'ils sont restés. Parce que bon, ça aurait pu tomber sur le mauvais terrain et sur des pierres, complètement à côté, etc. Vous voyez, vous avez tous les cas ici. Satan, des hommes du moment, s'enracine les soucis du monde. Mais, voilà, conclut-il, à vous qui êtes restés, c'est moi qui ajoute ça, parce qu'il s'adresse directement, le mystère est donné. Le mystère du royaume est donné. Voilà. Vous voyez, dans cette communication qui est la clé, l'essentiel est donné. Vous voyez, c'est l'unique événement. On va maintenant essayer de comprendre pourquoi toutes les paroles de Jésus sont des paraboles et pourquoi toutes les paraboles se retrouvent finalement dans ce qu'on peut appeler la parabole des paraboles. La parabole des paraboles, celle du semeur, parce que c'est la parole de la communication kérigmatique, entre guillemets, entre celui qui a confiance, qui parle, et ceux qui écoutent. C'est l'unique événement du monde de la Bible, la relation kérigmatique entre celui qui parle et celui qui peut entendre. C'est la porte d'entrée dans ce monde. C'est un monde, un tout, parce que c'est la plus petite des semences qui est semée ici, la parole. D'autres paraboles structurent cette même relation, suscitant finalement, si vous y entrez réellement, de lire toute la Bible comme parabole de l'unique événement d'écoute. Et maintenant, je vais vous lire Isaïe 55, qui est ici derrière cette parabole. On ne le repère pas toujours. Isaïe 55, nous connaissons tous ce texte à partir du verset 10. C'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux. Voyez, on est dans une parabole. Et comme, voyez, le comme c'est l'indicateur, le royaume des cieux est comme, c'est l'indicateur de la parabole. Et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole. Vous voyez, là, c'est Dieu qui parle. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Vous voyez, comment annoncer si on n'est pas envoyé? C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez, le semeur est sorti, et dans la paix que vous serez entraînés. Sur votre passage, montagne et colline explosent en acclamations, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu de la ronce, croîtra le cyprès. Au lieu de l'ortie, croîtra le myrte. Cela constituera pour le Seigneur une renommée, un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. Dernier mot du deuxième Isaïe. Donc voyez ici cette structure en abîme. Là, il s'agit de la parole de Dieu, dite en parabole. Et donc, Jésus, en parabole, reprend très concrètement cela en racontant les paraboles. Tout devient parabole, finalement, à partir de cette unique parabole qui est la relation entre celui qui parle et ceux qui peuvent écouter. Attention, qui peuvent écouter. La parabole étant le genre par excellence de la liberté de l'auditeur. Comme la poésie, la liberté de l'auditeur. Vous pouvez entrer dans ce monde. Les pères de l'Église sont les maîtres. C'est pour ça que nous continuons à les lire. Les maîtres de la lecture parabolique de la totalité du texte biblique au monde intégré. Le petit iota, voilà, comme dit Origène, le plus petit élément, la goutte, comme j'aime dire, dans laquelle se reflète la totalité du réel. Le tout et le plus petit élément communiquent entre eux. Le texte structure progressivement, quand vous y entrez, et c'est l'œuvre de la liturgie, le désir d'accomplissement du disciple lecteur, quand vous y entrez, votre désir d'accomplissement est structuré, voilà. Et vous pouvez trouver votre identité avec d'autres. Voyez ce que je vous avais dit à la page 35, tout en haut, ces images, voyez, visent en fait notre capital de maturation. J'aurais pu dire aussi ces paraboles, voyez, de la vie, de la résurrection, visent en fait notre mystérieux capital de maturation qui n'échappe toujours davantage au fur et à mesure que nous avançons sur nos chemins, capital pourtant entièrement livré à nos choix de vie. Le vocabulaire de la résurrection désigne donc finalement la visée d'accomplissement. Voilà. Impossible de nous représenter la vie en son accomplissement, état que nous anticipons cependant sans cesse, et là où se situe le langage parabolique. Voilà, à cet endroit. Et ensuite viennent les lieux d'expérience qui nous permettent d'expérimenter quand même déjà maintenant cet accomplissement. Alors, question, ce monde proposé, je reviens à la page 37, par le récit biblique, est-il crédible, habitable? À condition qu'il nous permette de bâtir un monde habitable. Ce qui veut dire, à condition que le récit biblique fonctionne effectivement comme récit de référence. Comme récit de référence, qui nous permet d'engendrer, de composer nos propres itinéraires. Voilà, ce qui est la fonction du récit d'identification, avec, entre naissance et mort, avec les situations d'ouverture, les disclosure situations dont j'ai parlé la dernière fois, etc., le désir. Voir comme un récit de référence qui nous permet d'écrire d'autres récits de référence. On va y revenir évidemment dans la troisième partie du cours. Et c'est là où il y a quelque chose de tout à fait spécifique. Est-ce unique, je suis tenté de le croire, que le récit biblique est peut-être le récit unique dans sa totalité qui cache en lui des mécanismes de prolifération et de créativité. Parce que ce qui est absolument remarquable, j'ai dit ça en passant, les exégètes nous le disent, qu'une seule partie seulement des 36, je crois qu'il y a 36 paraboles, remonte à Jésus. Ça veut dire qu'il les a racontées tellement bien que d'autres, après lui, ont pu inventer des paraboles et de les mettre sous son nom. Oui, je pense, il faut dire ça, parce qu'il les a racontés, il n'a pas voulu des répétiteurs. Un vrai poète, c'est Meyer qui dit ça, le grand historien, un prêtre de New York, Jésus le poète, il n'est pas uniquement ça, guérisseur, thaumaturge, etc. Mais voilà, un vrai poète ne veut pas avoir des gens qui répètent uniquement, mais qui deviennent à leur tour, voilà, des poètes, c'est-à-dire qui font attention à la poésie de leur vie quotidienne, c'est ça. Et qui décode la poésie de leur vie quotidienne ordinaire à partir de ces récits qui sont là. Alors, bien maintenant, l'autre versant, là va se poser la question de la vérité. Ce monde de la Bible, est-ce le tout du réel? Pourquoi choisir ce monde et non pas un autre? Ah, là, on va passer le seuil progressivement de la question de la vérité. Le seuil de la question de la vérité. Alors, je vais d'abord, si vous voulez, vous proposer, c'est la deuxième lecture du texte biblique, donc histoire et vérité. Maintenant vient la question historique et la question de la vérité, progressivement. Et je vais d'abord vous analyser brièvement la logique du jugement de vérité, donc l'authenticité, donc concordance avec soi-même, je dois supposer le presupponendum quand je rencontre autrui qu'il me dit effectivement ce qu'il pense. Au moins je dois viser ça, et éventuellement qu'il agit en fonction de ce qu'il dit. Sinon la communication n'est pas possible. Il faut au moins, je l'avais dit, que j'ai ce principe dans la tête pour dire que mais tu es un menteur. Ou tu m'utilises. Tu me dis une chose, mais tu penses une autre. Et après, tu vas faire encore une troisième. Vous voyez, ça, c'est quand même première visée. La justesse, c'est-à-dire, il y a des règles de jeu dans une société donnée. Maintenant, le jugement de vérité. Comment il fonctionne? Alors, vous voyez, il vient à venir un cela qui va s'expliciter progressivement. Première, il y a trois étapes dans le jugement de vérité. La logique, on fait un peu de logique, d'épistémologie. Cela dont il est question dans le texte biblique a eu lieu. Alors, il ne raconte pas des carabistouilles. Voilà. Ça a eu lieu. Ça, c'est élémentaire. Alors, deuxièmement, maintenant ça devient plus complexe, qu'est-ce que c'est ce « cela » ? « Cela », qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui a eu lieu ? Alors, pour nous, Dieu s'est dit lui-même, donc vous voyez, je reviens à Isaïe 55, Dieu s'est dit lui-même, il s'est révélé lui-même, vous rappelez, c'est toute la première partie du cours, définitivement, dans ce qui s'est passé entre Jésus et tous ceux et toutes celles dont il a croisé le chemin, ma définition du récit évangélique. Donc c'est toute la première partie du cours. Cela a eu lieu, effectivement. Alors voyez, on pourrait renoncer ici à la définition, à cette définition du cela. Renoncer au concept de révélation, même de Dieu. Alors, vous voyez, on serait au niveau d'une Jésus-logie, mais pas au niveau d'une Christologie. Donc, on réduit le christianisme, on va y venir, finalement, je dirais, à quelqu'un, un fondateur, Jésus, ce qui est possible. Il a fondé Jésus, le fondateur du christianisme. Mais bon, lui, il est mort. Définitivement. Donc, vous voyez, à ce moment-là, on renonce finalement à l'idée de Dieu. Donc tout va se jouer, nous allons voir, sur la résurrection maintenant. Alors, je reviens à ma phrase ici. Il s'est révélé lui-même définitivement dans ce qui s'est passé entre Jésus et tous ceux et toutes celles dont il a croisé le chemin. Donc, entre parenthèses, on pourrait renoncer à cette définition du « cela », de proposer une définition plus minimaliste du « cela ». Donnée par les témoins, alors les témoins prétendent que Dieu est intervenu. Et renoncement, finalement, on pourrait y renoncer à l'engagement de Dieu, ce que j'appelle une définition minimaliste du « cela ». Je laisse cette question ouverte, je la repousse pour le moment, voyez. Je la repousse, ce sera précisément le troisième argument, l'ultime argument. Pour le moment, je laisse. Alors, ça c'est le deuxième élément. Cela dont il est question dans le texte biblique a eu lieu. Qu'est-ce que c'est cela? C'est-à-dire dans la relation entre Jésus et ceux et celles qu'il a rencontré, pas uniquement ses disciples, mais aussi les disciples, Dieu lui-même s'est dit définitivement. Isaïe 55. Alors, troisième élément, le jugement impliqué dans les points 1 et 2 n'est vrai. Pourquoi jugement? Vous voyez, dans la vérité, il s'agit toujours d'un jugement. Je juge que ceci ou cela est vrai. Le jugement impliqué dans les points 1 et 2 n'est vrai que si ce qui a eu lieu a encore lieu. Ah, ça c'est très important, ce point. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, c'est de l'archéologie. C'est de l'archéologie, c'est légitime de faire de l'archéologie, c'est beaucoup. Mais c'est comme, je dirais, dans l'argument précédent, narratif, ce monde est-il habitable? Mais peut-être oui, mais je dirais dans mon salon, quelque part à Paris, ou je ne sais pas, au Japon, mais si ce que je lis là, ce monde dans lequel j'entre la Bible, m'aide pas à rendre le monde habitable aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Et donc ça vaut aussi pour le jugement de vérité, aujourd'hui. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Donc ça, c'est le troisième élément. Alors maintenant, je commente parce que c'est moins facile, malheureusement, que ça a l'air. Alors c'est là où les choses se corsent un tout petit peu, mais je vais me faire comprendre, je suis sûr. Alors, oui, c'est la confiance du semeur. Premièrement, nous sommes ici, c'est la première difficulté, mais c'est la conversion qui est en jeu ici, dans le domaine de la liberté. Dans le domaine de la liberté. Dans le domaine de la postulation, vous rappelez ce terme. Cela a eu lieu et a encore lieu. Évidemment, ça ne peut pas être prouvé au sens strict du terme. On revient à la même question que celle des preuves de Dieu. Il s'agit d'une postulation. Nous sommes dans le domaine de la liberté. Et dès qu'on est dans le domaine de la liberté, vous ne prouvez plus rien. L'amour est le meilleur exemple. Ça se prouve pas. C'est de l'ordre de la confiance et de la liberté. Voilà, postulation. Ce qui veut dire, et c'est la première chose qu'il faut intégrer ici, qu'on ne peut jamais isoler la question de la vérité de l'argument d'authenticité et de justesse. Vous voyez, intervient ici la notion du témoin qui est impliqué dans son jugement de vérité. C'est Il paye de sa peau d'une certaine manière, si je puis dire. Nous sommes dans le domaine de la liberté et de la postulation. Le jugement de vérité ne peut être séparé de l'existence du témoin qui porte ce jugement. L'argument de vérité reste donc lié à l'argument d'authenticité et de justesse, à savoir l'argument de sainteté. Alors, ce n'est pas suffisant. Maintenant vient, je prends le contre-pied. Le jugement de vérité prétend quand même à une certaine, et j'introduis ici certaine, objectivité. Et du coup, je dois entendre l'objection. Vous voyez, le jugement de vérité ne se réduit pas au jugement d'authenticité et de justesse. C'est pas parce que quelqu'un est plus saint qu'il dit la vérité. Le vrai. Donc il faut que j'entende quand même des objections. Et il y a d'autres candidats possibles. Y a-t-il d'autres candidats possibles à l'autorévélation de Dieu? Je peux quand même poser, si vous voulez, cette question. Je dirais tout de suite. D'autres candidats possibles. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme d'autres candidats? Moïse, Isaïe, Jésus de Nazareth, évidemment, Mohammed, Bouddha, etc. Donc, vous voyez, notre réflexion commence à trembler ici, hein. On commence à trembler parce que le champ s'élargit énormément et intervient ici tout de suite ce qu'on appelle le comparatisme historique. Et là, ça nous colle à la peau aujourd'hui. Ça colle à la peau, à la télévision, aux mass-médias, vous voyez. On ne peut pas ne pas comparer. Parce qu'on vit, rappelez-vous le premier chapitre du cours, où j'ai parlé des cultures au pluriel, des sociétés au pluriel, des religions au pluriel. Donc d'une certaine manière, chacun prétend implicitement à être vrai. Donc, pluralité des candidats. Et en même temps, attention, il y a des limites. Voyez, dès que je commence à comparer, mais quels sont les critères de comparaison? Je compare en fonction de quoi? Et évidemment, jusqu'à maintenant, j'ai introduit le cela chrétien au plus maximaliste du terme, si je puis dire. C'est l'autorévélation de Dieu, ça c'est un concept chrétien. Donc le cadre de référence est extrêmement difficile. Et ici, on entre évidemment dans la limite du comparatisme. Alors, quelles sont les difficultés du comparatisme ici? Regardons tout de suite un tout petit peu. Je vous ai mis les trois difficultés. Première difficulté, quand je me mets à comparer, je me mets à l'extérieur souvent. Je fais comme si j'étais au point de Sirius, vous voyez, je regarde d'en haut de ma montagne toutes les religions, et souvent on discute comme ça, et il y a une pluralité de candidats, et quelle est la vraie? Quelle est la vraie? Donc je m'implique pas, mais c'est complètement faux, c'est impossible. Une position extérieure n'est pas possible, et même un scientifique comparatiste, il est quelque part situé. Même s'il se déclare agnostique, il est quelque part, il a un intérêt. Alors, deuxième difficulté, si je mets maintenant le Christ en série, comme je viens de le faire, donc avec Moïse, Isaïe, Mohammed, Bouddha, etc., etc., je tombe de nouveau sur une difficulté. Le Christ ne prétend jamais à une identité exclusive. Il est l'unique, voilà la formule que je vous propose, et qui est déjà une partie de la solution. Il est l'unique qui engendre une multitude d'uniques. La formule que je vous propose. Son unique sainteté, alors pensons à Jean 1,18, voilà, le Fils unique qui est dans le sein du Père, donc son unicité, et qui nous en a fait l'exégèse, traduit littéralement, de Dieu lui-même. Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais lui, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous en a fait l'exégèse. Exégésator en grec, peu importe. Donc là apparaît l'unicité du Christ dans toute sa radicalité. Mais le problème, et saint Jean est parfaitement conscient de ça, que le mot monos en grec a une double signification. Le mot monos veut dire à la fois unique et seul. Unique et seul. Et ça, c'est l'ambiguïté de l'unicité. Si je suis l'unique de mon espèce, je reste seul. C'est la plus grande tentation du Christ, de rester seul de son espèce et donc d'être radicalement stérile, sans postérité. Et du coup, vient au chapitre 12, cette magnifique parabole de la semence qui tombe en terre. Si la semence qui tombe en terre, la semence reste monos, seule. Mais si elle tombe en terre et meurt, elle porte du fruit. Donc, voyez, la mort ou le don comme condition d'une fécondité. Donc, au fond, pour saint Jean, le Christ est l'unique Fils, précisément parce qu'il ne reste pas seul, parce qu'il tombe en terre, il meurt et il porte du fruit. Il engendre une multitude unique. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire, il y a quelque chose ici dans la sainteté du Christ qui ne se laisse pas mettre dans un comparatisme direct, disant la chose de cette manière-là. C'est-à-dire, qui tente d'isoler des uniques. C'est Moïse, c'est Jésus, c'est Isaïe, c'est Mohammed, c'est Bouddha, etc. L'unicité du Christ consiste à engendrer une multitude. C'est une unicité d'effacement, kénotique, pourrait-on dire, pour une fécondité. C'est ça sa sainteté. Donc, l'excellence du Christ, je reprends ma deuxième difficulté, n'est pas d'ordre exclusif. Il est l'unique qui engendre une multitude d'uniques. Son unique sainteté implique son effacement au profit de la multitude. Ce qu'il dira plus tard. Donc, c'est Jean 12 que je viens d'exposer. Vous pouvez regarder vous-même le texte chez vous, 20-28. Donc, cette parabole de nouveau de la semence qui tombe en terre. Et que les discours d'adieu vont expliciter, c'est heureux que je m'en aille, sinon l'esprit ne peut pas venir. Voilà. Voilà l'unicité du Christ. Alors ça, c'est, si vous voulez, j'ai déjà une deuxième difficulté qui rend éminemment complexe la comparaison, mise à part déjà le premier fait qu'il faut se situer quelque part et qu'on n'a jamais le point de vue de Sirius. Alors du coup, troisième difficulté, c'est la discussion du cadre de référence de la comparaison. Le cela, voyez, qui est en jeu, finalement. Le cela, cela dont il est question dans le texte biblique. C'est le principe même de la tradition chrétienne, l'autre livraison du Dieu saint entre nos mains. Et donc j'y reviendrai dans le troisième argument. Simplement, ces quelques points de commentaire pour vous dire à quel point maintenant on entre ici dans quelque chose de difficile quand on veut se mettre simplement sur la base de comparer les religions ou de comparer les figures de référence. La référence, dernier point du commentaire, du jugement de vérité est de toute façon le tout du réel. Et je reviens à ma question, est-ce que la Bible nous donne le tout du réel? Est-ce que la Bible nous donne le tout du réel? Ce que nous prétendons d'une certaine manière quand nous disons, elle est inspirée. Elle n'annule pas les autres textes, c'est pas une totalité exclusive. Je viens de le dire. Mais c'est une totalité qui renvoie à une pluralité. Alors du coup, elle nous invite, et c'est ça le cœur de l'argument, à une conversion de notre imaginaire du réel. C'est ça la difficulté. Qu'est-ce que c'est le réel? Vous voyez, je l'ai mis entre guillemets. Qu'est-ce que c'est le réel? C'est le problème de la question de la vérité. Est-ce que le réel est exclusif? Par exemple, le Big Bang. Par exemple. Voilà. Ou est-ce que une unicité exclusive, finalement? Le Dieu absolument unique dans l'islam. Sous forme de question. Ou est-ce que le réel, c'est l'effacement de l'unicité au profit d'un tout cosmique? Vous voyez, comme dans certaines, dans l'hindouisme, par exemple, on pourrait trouver ce genre de choses. Vous voyez, une pluralité de possibilités ici. Hein? Ou est-ce que c'est la relation, le réel, ultimement? Ce qui serait la thèse chrétienne. La relation. L'unique qui engendre une multitude d'uniques. Voilà. Donc on est devant cette question-là. Quand on entre réellement dans le jugement de vérité, et on ne se contente pas de jugement d'authenticité, de justesse et d'un certain pragmatisme chrétien, vous voyez. On s'interroge réellement. Alors, essayons donc de voir maintenant les quatre étapes de l'argument de vérité inhérent à l'itinéraire du Nazaréen. Donc on revient au récit de Jésus. Première étape, c'est le lien entre la cause de Jésus et sa personne. Qu'est-ce que c'est la cause de Jésus ? C'est ce qu'il a annoncé, le règne de Dieu, dont on a déjà parlé. Le règne de Dieu. Quel est le lien entre lui et sa cause qu'il a défendue? Alors ce lien est très complexe parce que je disais tout à l'heure que Jésus parle de sa cause. Il annonce le règne de Dieu, il ne s'annonce jamais lui-même. Hein? Jamais. Il est d'une extrême discrétion vis-à-vis de lui-même. Il parle de lui en troisième personne. Et quand il y a les envoyés, alors Luc est extrêmement précis par rapport à ça, quand les envoyés du Baptiste viennent, chapitre 7 de Luc, vous rappelez, est-ce que tu es celui qui doit venir? Mais Jésus ne répond pas à la question. Il lui renvoie au signe du royaume. Mais dites à Jean ce que vous observez. Les aveugles voient, les lépreux sont guéris, etc., etc. Et il ajoute, et heureux celui qui n'est pas scandalisé par moi. Donc, vous voyez, il ne se prononce pas. Il ouvre l'espace, comme dans la parabole du semeur, pour une liberté qui prend position. Donc, il y a un lien intime entre lui et la cause, mais Jésus lui-même est radicalement discret. Mais les disciples ne s'intéressent pas uniquement à la cause de Jésus, mais ils s'intéressent à lui. Suis-moi. Donc, voyez, là, on voit bien le lien intime entre Jésus et sa cause. Les disciples s'intéressent à lui. Et non seulement à sa cause, et l'itinéraire de Jésus peut se couper, si je puis m'exprimer ainsi, en deux, à la fois chez les synoptiques et chez saint Jean, c'est ce qu'on appelle la crise galiléenne, vous aussi voulez-vous partir? Qui dites-vous que je suis? Voilà. Donc là, il y a un seuil. Et les disciples, à ce moment-là, commencent à attribuer à Jésus une identité. Tu es le Saint de Dieu. Mais ils comprennent très mal ce qu'ils font, notamment Pierre, hein, mal comprenant par excellence. Voilà. Il comprend après coup, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Il comprend après coup. Voilà, donc ça c'est la première étape. Alors maintenant, si vous voulez, vient le démenti. Le démenti. Le procès et la mort ignominieuse de Jésus. Pourquoi démenti? Alors bon, on peut ici réfléchir, si vous voulez, je dirais très très longuement, sur les causes de la mort de Jésus. Si on avait plus de temps, on passerait une demi-heure là-dessus, mais on ne peut pas. Alors, vous avez, les historiens nous disent, il y a d'abord une cause politique, et c'est Jean qui l'enregistre magnifiquement, c'est Caïphe qui parle, vous avez la référence. « Vous n'y comprenez rien, dit-il au Sanhédrin, et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Oui, c'est la cause politique, c'est-à-dire le risque que produisent dans l'Empire les prophètes, un certain nombre de figures, Taïsen appelle ça les prophètes du symbolisme, qui posent des signes, mais il y a aussi les zélotes, etc. Il y a la cause religieuse, alors là vous avez toutes les gammes, il blasphème, etc. C'est un homme de présomption, là encore Saint Jean, il est possédé, vous avez toutes les gammes ici, chez Jean. Je n'entre pas dans les détails. Et finalement, c'est l'échec. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors il y a la version lucanienne, mais tout le monde s'en va, prend la tangente, les disciples disparaissent. Il y a quelques femmes qui restent, qui regardent de loin. Alors chez Jean, vous avez Marie et le disciple que Jésus aimait, qui sont déjà les premiers. Mais sinon, voilà, ça c'est la construction johannique, c'est l'absence, échec. Et aussi pour Jésus lui-même. Alors, question historique. Pour l'historien, comment la foi en Jésus ressuscité a-t-elle pu naître après un tel démenti? Vous voyez, est-ce que ça a eu lieu? C'est là la question. Après un tel échec, l'échec, si vous voulez, c'est la séparation entre la cause et le personnage. La séparation entre la cause qu'il a défendue et le personnage. Alors, il y a une alternative ici. Vous avez d'abord, évidemment, les théories depuis le 19e siècle chez des historiens, les théories de dénégation ou de projection. Ils n'ont pas supporté l'échec. Donc, projection. Il nous est apparu, c'est une projection. 1 Corinthiens 15, voyez, ofte, la célèbre formule, Dieu l'a montré. C'est le passif, ofte. Dieu nous l'a montré. Il est vivant. Dans cette confession. C'est une projection. Et l'autre possibilité, alors vous, si vous dites ça, projection, j'explique encore un tout petit peu, on va faire la pause. Si vous dites ça, premièrement, c'est pas un jugement historique, c'est déjà une théorie de l'explication. L'historien est devant l'énigme de l'échec, et d'une renaissance, la naissance du christianisme, 2000 ans, à partir d'un échec. Vous voyez, c'est totalement différent que dans l'islam. On n'est pas dans une conquête ici, ni dans le bouddhisme, vous voyez. Mais c'est fondé quand même sur la crucifixion, il ne faut pas oublier ça. Ignominieuse comme mort, il n'est pas mort dans son lit, Jésus. Ignominieuse, un brigand. un blasphémateur. Donc là, l'historien, il constate les deux, l'avant et l'après. Après, alors, comment c'est possible? Alors, on peut déployer des théories. Donc, une des théories, c'est la théorie de la dénégation et la projection. Alors, elle est tenue par beaucoup de chrétiens, parce que, évidemment, vous pouvez dire à ce moment-là, mais c'est une interprétation minimaliste du christianisme, j'y reviens maintenant, vous pouvez dire à ce moment-là, oui, lui, il est mort, mais sa cause, elle continue. Sa cause continue. Donc, je vais envoyer mes gamins dans le catéchisme pour qu'ils apprennent la cause de Jésus. Ce que fait la majorité des Français, ceux qui envoient encore leurs enfants dans les catéchismes, je dirais même la majorité des Européens. Parce qu'évidemment, c'est une cause magnifique de solidarité, de liberté, de conscience, des valeurs de solidarité. Et on en rajoute, vous voyez. Mais lui, bon, si on vous demande est-ce qu'il est ressuscité, regardez les enquêtes européennes. Oh non, 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 je ne peux pas croire ça. Bon, ça c'est un mythe. Oh, c'est la réincarnation, vous voyez, on va vous retrouver beaucoup de choses. Vous voyez, l'enjeu est là. Est-ce que ça a eu lieu? Oui ou non? C'est la question. C'est deux conceptions différentes du christianisme. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a la question. Cela, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a eu lieu? Le royaume, oui, bon, et ses transpositions. Ou est-ce que c'est lui encore aujourd'hui? Alors, la liturgie dit oui. La thèse de la liturgie, c'est ça. Rencontrer le Christ vivant, ressuscité, le jour du Seigneur. Bien, alors ça c'est l'autre possibilité, le jugement de la foi qui suppose donc une conversion. Est-ce que je m'engage à la suite de ceux et de celles, l'Église? On en parlera dans la troisième partie, qui disent « Il nous est apparu, Dieu l'a ressuscité, est-ce que j'ai de bonnes raisons de le faire ?» L'argument historique me conduit au point où je peux prendre position. Et donc, ça serait maintenant la quatrième étape après la pause, où je peux prendre position. Bien, je pense que vous avez bien perçu, je l'avais déjà dit, l'historien ne peut ni prouver la résurrection, ni prouver le contraire. Mais l'histoire est décisive parce que elle nous conduit au point où la vraie question peut se poser. Et qui, la vraie question qui est livrée à la liberté de chacun. D'où ma formule, l'argument historique me conduit au point où je peux prendre position. Donc théorie du déni, de projection. Ou, voilà, j'entre dans cette confession, dans le jugement. Donc je dis de nouveau le jugement de la foi. Qui suppose conversion. Est-ce que je m'engage à la suite de ceux qui disent « Il nous est apparu, Dieu l'a ressuscité », donc le premier témoignage de cela, c'est 1 Corinthiens 15. Tout à fait le début, où Paul s'engage, mais à la suite d'autres témoins. Alors, cela a eu lieu, cela a encore lieu, donc on comprend maintenant peut-être mieux cette formule, ça a eu lieu, cela a encore lieu. Il y a trois arguments, deux arguments nécessaires, un argument suffisant. Alors d'abord, les deux arguments nécessaires. D'abord, évidemment, je veux dire, pour que l'apparition du ressuscité devienne plausible, il faut déjà l'attente d'une résurrection générale. Et donc, elle préexiste. C'est pas Jésus qui l'a inventée. Elle préexiste dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on le trouve, je dirais, dans le deuxième livre des Maccabées, chapitres 7 et 8, le célèbre texte où, face à Antioche Épiphane, qui veut obliger les Juifs, on est dans un problème d'inculturation, il veut helléniser le judaïsme et obliger les Juifs de manger du porc, etc. Et donc les sept Maccabées refusent et il va les tuer l'un après l'autre, les sept frères, face à la mère, leur mère qui est là et qui les encourage. Et c'est là où, pour la première fois, vient la promesse d'une résurrection. Je vais vous retrouver. Voilà, je ne sais pas comment vous avez été créé en mon sein. Dieu seul sait. Comme Dieu seul sait comment la création est venue. Et vient là l'idée d'ailleurs de la creatio ex nihilo, hein, à partir de rien. Et donc, Dieu seul sait comment je vais vous retrouver. Donc il y a cette attente. Et les pharisiens étaient donc un groupe qui croyait en la résurrection. On voit bien dans les Actes des Apôtres, je vous ai donné aussi cette référence, 23:6, que Paul réussit avec beaucoup de ruse à mettre dos à dos, je dirais, les pharisiens et les sadduciens, et de faire croire à Festus qu'il est accusé parce qu'il croit en la résurrection. Et donc à ce moment-là, les sadduciens vont s'opposer aux pharisiens, etc. Vous avez la scène en Marc 12, aussi 18. Les sadduciens, eux, ne croient pas en la résurrection. Les pharisiens y croient. Et donc les sadduciens qui posent une colle à Jésus, cette célèbre histoire du Lévirat, un homme a des sept frères, c'est toujours sept, et donc il faut que le frère, quand le premier meurt, il faut qu'il épouse la femme, parce que l'enjeu, évidemment, de cette croyance en la résurrection, c'est la progéniture. Parce que c'est dans la progéniture, dans les fils et les filles, qu'on verra le Messie. Donc, c'est ça la visée. Donc il y a quand même une idée de résurrection générale. Est-ce qu'on peut encore présupposer cela aujourd'hui? D'abord, vous diriez sans doute non. Mais si vous revenez, vous voyez, maintenant à la page 34 et 35, où je vous ai proposé une théologie de la mort, et j'ai essayé d'une certaine manière de reconstruire aujourd'hui un argument de résurrection, humainement. Tout être humain peut découvrir dans une conversion humaine que son existence est orientée vers une résurrection, je l'ai mis là entre guillemets, et vers un définitif. Donc cela est présupposé, c'est le présupposé nécessaire, pas suffisant, pour que l'idée du le Christ est ressuscité et nous est apparu puisse devenir plausible. Donc je vous laisse retravailler ça. Mais apparaît tout de suite une difficulté énorme, un scandale, et qui est évidemment le scandale aussi pour les Juifs et pour les premiers chrétiens. C'est le transgresseur de la loi et le brigand Jésus dont on dit qu'il est ressuscité. Et du coup intervient ici un deuxième élément, un deuxième argument. Le récit de l'itinéraire de Jésus a pu, d'une certaine manière, préparer les disciples à entrer dans une conversion de leur image de Dieu. Qui est-il Dieu, finalement? Voyez, c'est pas le Dieu du Baptiste, le Dieu de la colère et du jugement, mais c'est le Dieu de la miséricorde absolue. Et on pourrait dire le Dieu radicalement ouvert, qui ne connaît plus de mur de haine, dira l'Épître aux Éphésiens, qui connaîtra plus de mur entre le pur et l'impur. Et on voit bien, je dirais, comment Jésus a initié, finalement, au fur et à mesure qu'il avançait sur ce chemin, les disciples à entrer dans une conversion de leur image de Dieu. Donc ça, si vous voulez, c'est le deuxième élément. Et en ce sens, les récits de l'apparition du ressuscité présupposent la totalité du récit, depuis le début. Et c'est l'image de Dieu qui est en jeu ici. Abba, Père. Donc un Dieu radicalement ouvert. Et de ce point de vue-là, on peut dire, et ça c'est le troisième argument maintenant, que la rencontre du ressuscité, vous voyez j'ai mis ici rencontre entre guillemets, la rencontre du ressuscité conduit cette conversion de l'image de Dieu jusqu'au bout, et apparaît ici une nouvelle question que nous allons traiter avec le troisième et le dernier argument, l'ouverture de la raison. Oui ou non, Dieu est-il un Dieu plus fort que la mort? C'est ça la question qui est posée. C'est là où la conversion est conduite jusqu'au bout. Donc vous voyez, c'est pas uniquement la question... Jésus est-il ressuscité ou est-ce qu'il est apparu à ses disciples? Les textes 1 Corinthiens 15 et partout dans la littérature paulinienne font de Dieu le sujet de l'apparition de Jésus. Il l'a ressuscité. Vous voyez, ressuscité, c'est une parabole aussi. Ressuscité, une parabole au sens il l'a éveillé. L'image, n'est-ce pas? Il l'a pris par la main, il l'a éveillé, ressuscité. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Il l'a élevé à sa droite. Donc, c'est Dieu le sujet de la résurrection. Et si je dis Dieu est le sujet de la résurrection, donc la question est ici, est-ce que Dieu est vraiment le Dieu des vivants et des morts? C'est ça la question. Alors, vous avez la magnifique formule de Paul, dans l'épître aux Romains, le chapitre 4, il prend la figure d'Abraham comme type. Il est notre père, Abraham, devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Retenez bien cette formule. Voilà, 17. Chapitre 4, 17. Donc, voyez, ici, il y a l'association 4, 17. Voilà. L'épître aux Romains. Voilà. Et ici, il y a l'association, pour la première fois, entre le Dieu créateur et celui qui ressuscite. Et vous voyez, c'est là où on touche au tout du réel. C'est Paul qui fait cette association. Qui est Dieu? Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, non, et qui réveille les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est à partir de la résurrection qu'il fait comprendre ce que c'est la création. Donc, ultimement, et ça c'est le dernier argument, c'est la question de Dieu qui est en jeu. Alors, je reviens ici. Donc, la rencontre du ressuscité, ni la foi qui existait déjà, le présupposé en une résurrection générale à la fin des temps. Donc là, il y a le scandale du brigand Jésus. Ni les rencontres avec le vivant qui ont induit déjà une conversion de l'image de Dieu suffisent, argument suffisant, pour croire en la résurrection du Christ. Donc c'est là où intervient la question de Dieu. Donc la rencontre du ressuscité, ce que nous racontent les récits d'apparition, les multiples récits dans les synoptiques et chez saint Jean, ce qu'on appelle le genre littéraire, les récits d'apparition. Alors d'abord, je dirais les difficultés et ce que les textes nous montrent. D'abord la rencontre unique de ces rencontres, le caractère unique de ces rencontres. Ils sont pluriels, mais est-ce qu'on peut parler de rencontre? Comment peut-on rencontrer un mort vivant, vous voyez? Alors, il faut bien dire, les textes sont très conscients de ce qu'ils font. Quand vous les analysez aujourd'hui avec les méthodes de la narratologie, c'est absolument remarquable. Notamment, je dirais, Luc, par exemple, ou Saint Jean, 20-21. Il y a une conscience, les textes sont conscients, ils vous épargnent rien, les doutes, la non-reconnaissance. Ils veulent montrer que rencontrer le ressuscité présuppose une conversion complète de nos sens. Nécessité d'une conversion radicale qui conduit au bout de celle qui a été amorcée du vivant de Jésus. C'est ça que nous racontent les textes. En ce sens, ce ne sont pas des mythes, parce que les mythes ne sont pas conscients du caractère mythique de ce qu'ils proposent. Là, il y a une conscience critique déjà présente. Alors, l'argumentation ici ne peut ici que revenir à l'alternative du point 3. C'est tout. Soit vous dites ce sont des projections, ou vous entrez dans un acte de foi, projection ou conversion. Et voyez, on revient ici au point central du cours, déjà abordé dans la première partie, à l'inversion. Alors, je vous renvoie à la page 21-22. Du polycopié. Vers une première définition du croire. Donc là, toute la phénoménologie du croire. Je me confie au mystère de l'existence qui se trouve au cœur de ma vulnérabilité, croyant que je ne serai pas perdant. Vous voyez, dans la deuxième partie du cours, j'ai appelé ça le postulat. Je postule qu'il y a du sens. Une possible inversion de cette définition qualifiant la foi. C'est le mystère qui m'attire à lui et crée en moi la confiance, me permettant ainsi de dire véritablement « je » au cœur de ma vulnérabilité. Et vous rappelez le texte de Philon d'Alexandrie, en bas de la page, voyez la dernière formule, magnifique, magnifique. « Car alors son équilibre vient de deux choses, de ce qu'elle regarde l'incomparable, donc ça c'est de l'homme vers Dieu, et de ce fait n'est pas tiré en sens contraire par des réalités semblables à elle, et de ce qu'elle, il s'agit de l'âme, elle est regardée, l'inversion, parce que l'âme que le maître a jugée digne de son regard, il l'a élue pour sa seule excellence. » L'inversion. Je serai regardé comme je regarde. Alors ça, c'est saint Paul. Donc, voyez, il s'agit de ça ici, dans l'acte de foi, dans la résurrection. C'est Dieu qui prend l'initiative. Alors, est-ce que oui ou non? Est-ce que je dis c'est une projection ou j'entre dans cette inversion? Dieu seul peut prendre l'initiative et peut mettre en place, et j'ai mis Dieu seul, en italique, précisément, il devient sujet ici de la foi. Dieu seul peut prendre l'initiative et mettre en place, qu'est-ce qu'il met en place? Le lien mystérieux entre le Christ ressuscité et celui et celle qu'il rencontre. Et c'est ça qui nous est raconté dans le récit. Un lien mystérieux, plus fort que la mort, le crucifié vivant, le crucifié qui montre ses blessures chez saint Jean, et aussi chez Luc, n'est-ce pas? Les marques des clous, etc. Et donc c'est le même. Et en même temps, il l'est rencontré. Dieu le montre vivant. Donc l'enjeu, c'est la signification du mot « Dieu » et pas uniquement du mot Dieu, mais du nom même de Dieu. Est-ce que Dieu vraiment est « je suis celui qui est, qui était et qui vient » et qui vient. Est-ce qu'il est celui-là? Le Dieu des vivants et des morts, qui appelle à la vie ceux qui sont morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Dieu s'identifiant dans la résurrection comme celui qui est plus fort que la mort. Voyez, là, tout se décide à cet endroit-là. Tout se décide à cet endroit-là. Conclusion. Quelles sont les raisons qui nous permettent d'argumenter en faveur de la proposition initiale, cela dont il est question dans le texte biblique, a eu lieu parce que cela a encore lieu pour celui qui porte le jugement de vérité. Ça a encore lieu, Dieu est encore le Dieu des vivants et des morts. Une convergence de plusieurs raisons. Je viens d'indiquer les trois. La dernière de ces trois raisons est la plus fragile, évidemment. La plus fragile, d'un point de vue rationnel. La raison humaine, la nôtre, voudrait bien précéder le seuil de la conversion. Nous aimerions tant prendre le point de vue de Sirius. Alors qu'elle se révèle ici, la raison, à cet endroit-là, comme intelligence de l'acte de conversion. Donc, elle se révèle, la raison, comme solide, quand je suis entré dans le postulat, dans l'acte de conversion. Voilà. L'obstacle ultime de cette argumentation non contraignante en faveur de la vérité est la crédibilité même de Dieu, oui ou non. Donc je disais, c'est la question, est-il le vivant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, oui ou non. Donc la question de la vérité se décide là. Ça m'ouvre la troisième et dernière partie, l'ouverture de la raison, et vient évidemment maintenant l'antidote le plus radical, le tragique, le mal radical, et l'espérance active comme possibilité, l'argument de raison. L'argument de sainteté, l'argument narratif et historique, ou l'argument christologique, l'itinéraire du Christ, et maintenant l'argument de raison. Alors, je vous invite fermement, on ne va pas le faire maintenant, ce que j'ai mis en gras ici, de revenir maintenant aux pages 25-30. Vous voyez, la question est maintenant, que peut-on attendre de la raison dans le domaine du sens et de l'existence de la foi? Et surtout la conclusion, les thèses, les sept thèses que j'ai développées là. Il s'agit de cela maintenant. Alors, dans les quatre étapes que vous allez trouver maintenant, c'est ça que je disais au début, on est dans une phase un peu de synthèse, qui est évidemment difficile, parce qu'il faut réintégrer tous les éléments maintenant de l'argumentation, ici dans cette deuxième partie du cours. Je reviens au point de départ. Alors, je proposais pour faciliter ce soir les choses, d'abord, le point de départ, un résumé. L'enjeu des preuves de Dieu, donc il s'agit maintenant du mot Dieu et du nom de Dieu. Est-ce qu'il est le Dieu des vivants et des morts? L'enjeu des preuves de Dieu, vous rappelez, est de donner un soubassement expérimental au mot, chez saint Thomas, par exemple, l'infini, le cosmique, etc., un sens cosmique du mot « cela », vous voyez le « cela », hein, tout le monde appelle ça « Dieu », c'est « cela ». Donc, le mot « Dieu », les preuves chez Thomas explicitent le mot « Dieu », ou chez saint Anselme, c'est le nom de Dieu qui est pensé. « Je suis celui qui est », vous rappelez. La pensée ne peut pas penser... ne peut pas penser l'identité entre l'essence et l'existence, ce que Dieu est et son exister. L'essence de Dieu, l'identité de Dieu, c'est exister. Donc, en s'affrontant à Dieu, la pensée découvre ses limites. Ça, c'était saint Anselme. Et finalement, Kant, vous rappelez, maintenir, je vous utiliser cette formule, magnifique postulat, postuler un sens contre l'absurde. Voilà. Je postule que l'existence morale est sensée. Je maintiens jusqu'au bout l'ordre de respect et de sainteté et postule que cet ordre est plus fort que jalousie, violence et mort. Et c'est ça la signification du mot Dieu et du nom de Dieu. Je suis celui qui est, je suis celui qui est, qui était et qui vient, que je serai. Je suis celui que je serai, c'est-à-dire l'auteur moral de l'univers. Alors ça va nullement de soi que dans l'absurde, il y a quand même un auteur moral. Mais en vivant moralement et en poursuivant la sainteté, je maintiens cette hypothèse, postulat. Cet enjeu, deuxième point, je l'ai reformulé dans la postmodernité, dans la situation postmoderne d'une pluralité de convictions. D'une pluralité de convictions, de figures d'identification et de récits de référence, vous voyez, tous les candidats possibles, d'Isaïe jusqu'à Bouddha, etc. L'enjeu est de maintenir, vous rappelez, jusqu'au bout, et ça, chaque fois, il s'agit d'une limite. La question de la vérité, c'est une question de limite. Cette pluralité, maintenir la pluralité, tout en tenant à l'unité de la vérité, elle est unique, la vérité. L'utopie d'une communication universelle, vous rappelez, utopie, sans exclusion et sans contrainte. On peut dire la chose d'une même manière, d'une autre manière. Je présuppose l'idée d'humanité. Et quand je dis « il y a humanité », ce n'est pas uniquement l'humanité d'hier, c'est celle d'aujourd'hui, tous, les droits de l'homme, tous, et maintenant il faut rajouter aussi de demain. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui a des implications pour la survie de l'humanité de demain. Et voyez, on retrouve de nouveau déjà cette visée implicite d'un accomplissement et d'une résurrection, l'idée d'humanité. Ces deux affirmations, pluralité radicale et unité de la vérité, unité de l'humanité, sont apparemment contradictoires. La vérité est une, la vérité est de l'ordre de la communication entre tous. Mais ils indiquent donc la condition indéterminée, je suis toujours dans mon résumé du premier chapitre du cours, indéterminée et absolument fragile de l'humanité. L'humanité est renvoyée à sa propre liberté. La magnifique formule de Dignitatis Humanae que j'ai commentée, la vérité ne s'impose pas par la force de la vérité, la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Donc, la vérité ne s'impose jamais par la violence. Pluralité radicale, et c'est ça la fragilité de l'humanité. Elle est radicalement fragilisée. Et du coup apparaît la possibilité d'un acte libre, prendre librement, vous rappelez, c'était la finale du premier chapitre, sur soi, ses conditions même de la vérité, sa fragilité, et vivre avec ceux et celles qui ne posent pas la question de la vérité. C'est foule, une foule de gens qui se posent jamais la question de la vérité. Voir prendre sur soi la violence entre convictions ultimes. Et c'est justement entrer dans la sainteté comme la forme ultime du vrai. Voyez, je reviens au premier argument. La forme ultime de la vérité, c'est la sainteté. La forme, ça veut dire prendre sur soi, je veux dire le négatif dans la création, et croire en la sainteté de Dieu, en celle de son témoin. Et vous voyez, c'est là où vient la notion du témoin. Jean 18, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et vous avez là la distinction, quiconque, il ne s'agit pas du chrétien, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voyez cette sorte de connivence entre le sein de Dieu et tout être humain qui éprouve la violence et qui éprouve la fragilité de l'être humain et la question de la vérité. Et vous avez la question de Pilate, évidemment. Qu'est-ce que la vérité? Voilà. C'est là la question. Voilà le point de départ. Alors, deuxième élément de l'argument. Il s'agit donc de prendre sur soi la fragilité de la forme du vrai. C'est maintenant prendre position par rapport à la raison. Finalement, la raison humaine, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de vérité? Le jugement de vérité affirme ceci. Cela qui a eu lieu a encore lieu. Qu'est-ce qu'il y a eu lieu et a encore lieu? Quel est le dernier mot de la réalité? Alors, saint Paul dit c'est le Amen de Dieu. Le Amen de Dieu. Et donc, l'homme qui dit Amen, voilà. Je vous ai expliqué dans la première séance du cours la Amen, n'est-ce pas? Donc, comme lieu de vérité, Amen. Donc le dernier, est-ce que le dernier mot du réel est Dieu? Le tout du réel. Celui que je serai, j'adopterai maintenant plutôt ce nom de l'Apocalypse, celui que je serai, celui qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient, oui. Non, qui peut se traduire, celui qui prend sur soi la fragilité de la forme du vrai, donc qui s'affronte à une humanité radicalement pluralisée, une humanité indifférente pour une large partie à la question de la vérité, une humanité devenue ou étant toujours un peu cynique, plus ou moins, et une humanité traversée par la violence. Est-ce que c'est ça, l'ultime mot de l'univers? Dieu, est-ce qu'il serait celui-là, qui prend sur lui la forme du vrai? Ce que le Christ est. Celui qui prend sur soi la fragilité radicale de la forme du vrai, en se livrant entre les mains des hommes. Ce nom est-il pensable comme parole ultime du réel? La raison est-elle capable de penser ce jugement de vérité? Que peut-on attendre de la raison? Donc voyez, je reviens de nouveau à cette question. Que peut-on attendre de la raison et des raisons que nous développons? La réponse, troisième étape, se décide face à l'expérience du tragique, donc le livre de Job. La triade biblique, donc le tragique, la jalousie, ça commence toujours par là. Voyez, l'unicité de l'autre, la violence et le meurtre, voilà, Caïn et Abel, et le mensonge, le serpent, voilà, le mensonge. Il y a un lien intime dans l'écriture entre notre expérience de la mort et le mensonge. Qu'est-ce que c'est notre expérience de la mort? Pourquoi la mort est le dernier ennemi vaincu par le Messie? Pourquoi la mort est le dernier ennemi? Parce que la mort nous suggère un terrible mensonge. Finalement, la vie est tellement courte, toujours trop courte, ça ne vaut pas la peine. Voilà, le mensonge. Et il y a beaucoup, évidemment, qui va en faveur de ce mensonge. Beaucoup. Et donc, le Messie est celui qui a vaincu le mensonge, qui a enlevé à la mort son pouvoir, dit l'Épître aux Hébreux. Parce que nous sommes comme des esclaves de la mort, et il ne nous a pas enlevé la mort, mais il nous a libérés du pouvoir de la mort. C'est ça, l'œuvre du Messie. Alors, saint Augustin et saint Thomas disent « Le mal n'a pas d'être, Dieu le permet pour faire ressortir de manière plus éclatante la gloire de son être. Je suis. Mais le mal n'a pas d'être. Cette argumentation est devenue inacceptable. Disons-le clairement. Inacceptable. Disons-le clairement. La sainteté est le seul antidote au mal radical. C'est-à-dire la foi ou la puissance d'exister, le courage d'être et la charité ou le don de soi, foi et charité intimement liées à l'espérance, sont le seul antidote au mal. Le jugement de vérité de quelqu'un qui y est engagé avec et par sa propre existence de foi, élémentaire, pas nécessairement chrétienne, d'amour, pourrait consister à affirmer face à l'insoutenable mal que Dieu n'existe pas, que le tragique prend le dessus. C'est possible et compréhensible, et jusqu'à un certain point, bien sûr, raisonnable. Or, il affirme que Dieu est celui qui a pris sur soi la forme fragile du vrai et s'est définitivement livré à notre histoire. Vous voyez, maintenant le concept d'autorévélation prend ici toute sa signification. Donc la foi, l'amour et l'espérance, s'affrontant au tragique, maintiennent que Dieu, voyez, c'est pas une hypothèse qu'il faut abandonner face au tragique, mais maintiennent que c'est Dieu lui-même qui a pris sur lui cette forme du vrai. Et c'est cela qui a eu lieu et qui a lieu encore et qui nous est raconté par le récit du Nouveau Testament. Donc je reprends ce formule. Le jugement de vérité de quelqu'un qui est engagé donc dans le courage d'exister, dans la charité, le don de soi, foi et charité sont intimement liés ici, à cet endroit, à l'espérance active. Le jugement de vérité de quelqu'un qui s'y est engagé avec et par sa propre existence de foi et d'amour pourrait consister à affirmer face à l'insoutenable mal que Dieu n'existe pas, pourrait le faire. Or, il affirme que Dieu est celui qui a pris sur soi la forme fragile du vrai et s'est définitivement livré à notre histoire. Ce jugement implique donc celui qui se prononce ainsi dans une existence qui a pour axe la sainteté et qui opte contre l'absurde en faveur d'une ultime cohérence de cette forme de vie. Oui ou non? Voyez, c'est extrêmement fragile, mais c'est aussi fragile que le tragique. C'est extrêmement fragile. Et ça, si vous voulez, ça correspond parfaitement à ce que la tradition chrétienne dit de la révélation, qu'elle ne s'impose à personne, mais est proposée radicalement à la liberté humaine. Rappelez-vous le chapitre sur la révélation. Dieu a rien à nous communiquer, sinon son intimité. Voilà. Rien d'autre. Mais si tout est don, le donateur se cache nécessairement pour rendre le don de la liberté recevable par l'homme. Donc c'est le nœud, si vous voulez. Mais ça implique évidemment un retour au premier argument, à l'argument de sainteté. Alors, quatrième et dernier point, la raison peut-elle se trouver elle-même dans ce jugement de vérité, se trouver elle-même? Oui, à condition d'entrer dans un débat épistémologique, qu'on va pas mener, maintenant en détail, avec les rationalités modernes et contemporaines sur la question qu'est-ce que le réel? Et ce débat existe. Qu'est-ce que le réel? Aristote et les sciences classiques, Newton, Galilée, etc., disent ceci. Le réel est ce qui est possible. Et du coup, vous avez tout le débat sur les miracles. Le réel est ce qui est possible. Aujourd'hui, une raison sensible à l'émergence de nouveaux possibles dans un réel fondamentalement voilé, c'est Prigogine, le grand scientifique, qui a donné cette formule, même le Big Bang, je crois que je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Ce n'est que à peine 3% de ce que les scientifiques peuvent découvrir du réel, le Big Bang. Après, on invente des concepts comme le trou noir, etc. Le réel est fondamentalement voilé. C'est la condition de parler de révélation. Donc, la question du réel se pose. Donc, alors, une raison sensible à l'émergence de nouveaux possibles, la théorie de l'évolution aujourd'hui est bâtie là-dessus, permet, voilà, évidemment, de penser non pas d'abord les possibles et ensuite le réel, mais l'émergence de possibles. La raison ne devient pas nécessairement folle quand elle pense l'ultime. Elle ne devient pas nécessairement folle quand elle pense l'ultime. Donc Kant est un bon exemple. Au contraire, elle se trouve elle-même quand elle ne refuse pas de penser la vision impossible d'une humanité réconciliée avec elle-même pour pouvoir dénoncer en vérité tout ce que s'y oppose. D'une certaine manière, on présuppose toujours cette utopie. La raison implique donc nécessairement la fiction. Nécessairement. Il n'y a pas de raison sans fiction. Et le récit de fiction. Et donc la littérature humaine, pour ne pas se laisser réduire à la raison scientifique. La raison ne se réduit pas à la raison technicienne, scientifique, du faisable, etc., etc. Elle est aussi une raison qui, à travers les paraboles, etc., parle du possible ultime et du sens, malgré le tragique. Alors, conclusion. Quelques remarques. D'abord, je dirais, j'espère que vous avez remarqué, je vous renvoie pour la reprise, pour vous-même, au schéma 2. La circularité de l'argument de crédibilité. Mais il vaudrait mieux parler de la spirale. La spirale expérimentale. Qu'est-ce que c'est, la spirale expérimentale? Le point de départ, c'est évidemment l'authenticité. Ce qui s'expérimente, l'authenticité de tel être humain, du centurion, de quiconque, évidemment en dernière instance du Christ. La justesse aussi, et la vérité finalement. Mais à un autre niveau, on vient de le voir, le jugement de vérité retourne à l'authenticité et à la justesse de celui qui le porte. C'est-à-dire, oui ou non, est-ce que je m'engage effectivement sur cet itinéraire d'une sainteté désintéressée, voilà, qui renvoie d'un côté à la figure du Christ et de l'autre côté à quiconque? On passe de l'argument de sainteté par l'argument narratif et historique ou christologique à l'argument de raison. Mais vous avez bien remarqué à la fin que l'argument de raison conduit celui qui le porte à nouveau vers l'argument de sainteté. Donc vous voyez, une sorte de spirale où les choses s'approfondissent progressivement. Ça, c'est le premier point. D'où vient la difficulté de cette manière de procéder? D'où vient la difficulté? Elle met à mal notre besoin d'un argument décisif unique. J'aimerais tant avoir finalement l'argument qui me dispenserait de croire librement. Voilà. Qui me convainc. Elle met à mal notre besoin d'un argument décisif unique qui nous dispenserait d'un acte de foi libre. d'un engagement dans la sainteté et surtout, surtout, à la fin, d'une espérance active. Foi, sainteté, espérance active, résistance face au mal, au tragique. La raison semble donc venir toujours trop tard. C'est sûrement l'impression que vous avez eue sur cet itinéraire. Elle vient toujours trop tard. La foi est déjà là, ou elle n'est pas là. La décision est déjà prise, ou elle n'est jamais prise. Vous voyez, quand vous discutez avec les gens, je reviens à ma situation inaugurale du cours. Pourquoi vous adhérez ? Elle est déjà prise ou elle n'est jamais prise. Mais quand la décision est assumée, ça c'est magnifique. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, la raison se trouve elle-même à ce moment-là. Le triple argument joue en faveur de la décision et de sa solidification. Vous voyez, une fois que vous vous rendez compte, la foi est déjà là. Les trois arguments et leur articulation en forme de spirale épousent donc nos itinéraires et le mouvement de nos existences. Ce qui veut dire raison et liberté s'y trouvent en relation d'implication mutuelle. Et vous voyez, notre vie, votre vie, la vie de chacun de nous fonctionne comme ça. Vous voyez, vous êtes devant des décisions difficiles à prendre. Vous faites des pondérations. Vous réfléchissez des raisons pour, des raisons contre, et tout d'un coup vous découvrez, vous avez déjà pris la décision. La balance est tombée dans un sens. Et à ce moment-là, les raisons prennent toute leur valeur et leur force. Et voyez, c'est donc penser au fond cette avancée, par exemple dans les exercices spirituels de Saint Ignace, ça fonctionne de cette manière-là. Voyez, c'est de penser ensemble liberté et raison. Et ça, c'est la maturité, la fortification. Les trois arguments et leur articulation en forme de spirale épousent nos itinéraires et le mouvement de nos existences. Raison et liberté s'y trouvent en relation d'implication mutuelle. La force persuasive, alors là je parle de la force persuasive, des trois arguments viennent de leur respect de la liberté, les trois fois. Ils viennent de leur respect. Ils sont non contraignantes. Non contraignantes. La possibilité, voyez le peu, la possibilité de vivre son existence au niveau de l'expérience de sainteté. Chacun à sa mesure, vous rappelez. La possibilité d'une identification humaniste et éthique avec le récit biblique. Oui, bien sûr. Sans croire en la résurrection. C'est possible. Un type d'humanité, désir d'accomplissement. La possibilité de faire de la question de Dieu, posée à la limite de l'existence individuelle et collective, question portant sur le tout du réel, la question centrale de sa propre existence. Oui ou non, est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que c'est le mot ultime pour moi, pour nous, pour notre existence? Oui ou non, Dieu est-il plus fort que la mort? C'est finalement la liberté de donner mesure à son existence qui parle ultimement de Dieu. Voilà, ça c'est l'être humain. Dieu donne à l'être humain de donner mesure à son existence et à chacun de manière unique. Et c'est ça qui parle de Dieu. Et quand nous contemplons, même à Noël, la foule des gens, et un peu d'une manière un peu intensive, et pas uniquement les gens qui consomment, vous voyez, et ça nous dégoûte, mais on les regarde un peu, les itinéraires, c'est ça que nous découvrons, que nous contemplons. Voilà. La liberté de donner mesure à son existence, qui parle de Dieu. Donc le passage à la troisième partie du cours vient maintenant ici. Le quatrième argument de crédibilité concerne l'Église. Cet argument est évidemment impliqué dans ce qui précède, Dans la mesure où l'Église est d'abord celle qui a tout transmis. On peut avoir des dents dures contre l'Église, des ressentiments de toutes sortes, mais je dis, bon, c'est d'abord le sujet de la transmission. La proposition de la foi, première partie. L'Église est le sujet du discernement d'une identité recevable de la foi à travers les âges et les cultures. L'herméneutique fondamentale. Vous rappelez la page au début du cours, tout à fait au début du cours, 2 minutes encore. Au fondement de la foi, l'expérience d'un sujet croyant, la tradition d'une communauté. Proposition. B. La crédibilité de la foi. L'Église est le sujet d'une tradition décentrée par rapport à elle-même, mise par écrit dans les Écritures, avec l'argument de sainteté, l'argument narratif et historique, et le travail avec la raison. C'est l'Église qui est le sujet. L'Église devient donc elle-même un argument de crédibilité dans la mesure où elle est effectivement apostolique, c'est-à-dire décentrée. Si elle est décentrée, effectivement, si elle devient apostolique, elle devient un argument de crédibilité. Pour elle vaut aussi la mesure avec laquelle l'Église, tu te mesures, tu seras mesuré. À elle de voir l'Église dans l'histoire. Ce que le pape François appelle dans son premier chapitre de Evangelii Gaudium, la transformation missionnaire, il aurait pu dire apostolique, de l'Église. Voilà, donc on a terminé la deuxième partie. Je vous souhaite alors une bonne fin de ce temps de l'Avent et qui conduit vers un accomplissement qu'est l'incarnation. Voilà, l'incarnation. Donc bonne fête de Noël et on se retrouve au début du mois de janvier.